enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
On va parler un petit peu ce soir de quelqu'un qui s'appelle Gédéon. On avait parlé de d'un de ses presque contemporains, on avait parlé de Samson il y a quelque temps. Et ce soir, j'aimerais parler de Gédéon, c'est dans le livre des Juges. Et Gédéon était dans une telle période, comme ça, pour ceux qui voudront lire un petit peu le texte avec moi dans la Bible, c'est au chapitre 6 du livre des Juges. Et Gédéon se trouvait dans une telle période, justement, où on avait le sentiment que Dieu s'est éloigné, que Dieu est, je sais pas, il doit faire quelque chose sûrement, il doit être très occupé, mais enfin il fait plus rien chez nous quoi. Et puis on l'entend plus, il y a plus de messages, plus de paroles, plus de prophéties, plus de révélations, plus de miracles, plus d'interventions. On a des problèmes et puis on se débrouille tout seul, vaille que vaille, et plutôt mal que bien. Et Gédéon était dans cette période. Hein. Et donc, Juges 6, verset 11, nous lisons, « Puis vint l'ange de l'Éternel, un ange de Dieu est venu, au verset 11, et il s'est assis sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, était en train de battre du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Les Madianites étaient à ce moment-là le peuple qui opprimait opprimait les Hébreux. Il leur faisait beaucoup de mal. Il les dévorait, il les pressait, il les pillait, il les racketait avec beaucoup de violence. Verset 12. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Il lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon a regardé si c'est bien à lui qu'on parle. Moi? Il a dit quoi? Moi, vaillant héros? Mais il a dit, mon Seigneur, si l'Éternel, comme tu dis, est avec nous, alors pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-ils? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent? Ah oui, ils nous parlent du bon vieux temps. Ouais, tu parles. Quand ils disent, ouais, c'est l'Éternel qui nous a fait monter d'Égypte. Ouais, mais maintenant, nous, eh ben, l'Éternel nous a abandonnés et puis il nous a livrés entre les mains de Madian. Mais l'Éternel se tourna vers Gédéon et lui dit, Gédéon, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. C'est moi qui t'envoie. Mais Gédéon a dit, mais mon Seigneur, avec quoi je vais délivrer Israël? Ma famille est la plus pauvre de ma tribu, Manassé. Et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Mais l'Éternel lui dit, mais moi je vais être avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Vous voyez, Gédéon, on nous dit que Gédéon était en train de battre du blé au pressoir. Bon, c'est quand même pas normal. Normalement, le pressoir, c'est l'endroit où on foule le raisin. Et puis le blé, on le bat dans l'air. Mais là, il était en train de faire le contraire. Pourquoi? Mais parce que les Madianites arrivaient à tout moment et pillaient tout ce qui se passait, tout ce qu'on récoltait. Alors, ils venaient à la saison du blé, ils venaient à la saison des fruits, ils venaient tout le temps. Alors, Gédéon était en train d'essayer de je veux pas dire de tricher, mais il était en train d'essayer de les feinter pour essayer de mettre un petit peu quand même quelque chose à l'abri. Il essayait de cacher un peu quelques provisions pour sauvegarder un peu. Mais c'est un peu l'image des gens qui sont sous l'oppression, qui sont sous une force qui les domine, les gens qui se font piller par la vie, par le monde, par des puissances méchantes peut-être, et dans leur vie tout est sans dessus dessous, tout est à l'envers. Ce qui devrait se faire d'une façon se fait d'une autre. Ils sont tout remués, ils sont tout bouleversés, ils sont tout chamboulés. Et voilà que Dieu lui dit. Lui donne des paroles encourageantes, des paroles de foi, de confiance. Allez, vas-y, tu es fort. Mais Gédéon a dit, mais attends, tu rigoles ou quoi? Dans l'état où je suis, moi, Ma tribu est toute petite, ma famille, on n'est pas bien nombreux, moi je suis le plus petit au milieu de tout ça, et l'ensemble est misérable. Alors, mais Dieu lui dit, je suis avec toi. Voyez, ce soir, peut-être que quelqu'un se dit, moi aussi je suis un petit peu comme ce Gédéon. Dans ma vie, tout est à l'envers. Une multitude de choses sont bouleversées. Ce qui devrait être dans un sens et dans l'autre. Dans ma tête, c'est aussi un petit peu comme ça. Dans ma tête, du matin au soir, je suis en train de battre du froment au pressoir. Je suis complètement tout à l'envers. J'ai rien trouvé à mettre en ordre. Tout va sans dessus dessous. Je rame d'un côté, je rame de l'autre. Voilà. Et tout d'un coup, voilà. J'arrive dans cette église. Ils ont l'air bien gentils, un peu luberlus, mais gentils quand même. Mais ils ont l'air un peu bizarres. Et voilà qu'ils sont là. Ils chantent des paroles de victoire. Allons-y. Dieu est avec nous. Qu'est-ce qu'on a chanté, des trucs où on parle de victoire. Mais quelle victoire! Il nous parle de miracles, mais quel miracle? Où sont les miracles? Et quelqu'un est en train de dire, mais quel prodige? Où? Et Dieu est où? Dieu dit quoi? Où sont les prodiges dont il parle? Et j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire que la parole que Dieu a dite à Gédéon n'est pas seulement la parole que Dieu a dit à Gédéon, mais c'est une parole qui est représentative de ce que Dieu est. Parce que ce que Dieu dit est toujours un prolongement de son identité. Et pour tous ceux qui vont prendre la parole de Dieu au sérieux, pour tous ceux qui vont accepter de se remettre en cause, pour tous ceux qui vont accepter de dire, bon, alors, ok, si Dieu intervient dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer? Je voudrais ce soir, dès maintenant, vous donner une bonne nouvelle. C'est que c'est pas obligé que la situation dans laquelle tu es demeure comme telle. C'est pas inéluctable. Il y a une porte de sortie. Il y a une solution. Quelque chose peut changer pour toi. Dieu a un programme pour toi. Peut-être que tu dis, mais moi je suis, si Dieu me parle, Dieu me parle, mais Dieu te dit aussi à toi. Tu peux être dans la main de Dieu comme un vaillant héros. Et tu dis, oh mais ça c'est une blague. Pourquoi est-ce que ça peut se réaliser? Parce que Dieu dit à Gédéon, contre ses arguments, Dieu lui dit, mais c'est pas parce que ce que tu es, c'est à cause du fait que moi je serai avec toi. Dieu ne dit pas à Gédéon, tu es puissant parce que toi-même tu as de la force. Dieu lui a pas dit, mais rappelle-toi, tu sais, tu oublies que tu as un compte en banque, tu oublies que tu as des talents d'organisation, ou tu oublies que, tu sais, ton oncle est capable de te pistonner. Dieu lui dit, moi, l'Éternel, je suis avec toi. Et si Dieu est avec toi, alors ces miracles dont on nous a parlé, tu vas les voir aussi dans ta vie. Tu vas voir Dieu s'investir, Dieu réellement devenir concret. Alors, Gédéon n'avait pas compris qu'il était en train de parler à un envoyé de Dieu, à un ange céleste. Lui, il l'appelle avec déférence, il l'appelle mon Seigneur, mais parce qu'il voyait qu'il parlait avec quelqu'un qui était d'une grande prestance, quelqu'un qui lui en imposait. Mais il n'avait pas compris, alors il a offert un sacrifice, et tout d'un coup, quand l'ange a avancé son bâton, du feu est sorti et du rocher et l'a consumé entièrement, et lui-même il a disparu. Alors tout d'un coup, Gédéon s'est rendu compte qu'il était en train de parler avec un ange, il a même eu les chocottes, hein, nous on rigole, ouais, attendez de voir un ange qui tout d'un coup vous parle puis disparaît, vous allez voir, vous rigolez plus, hein. Alors après, il était vraiment étonné. Vous allez vous rendre compte que Dieu vous parle. Vous allez vous rendre compte que même si le type qui tout d'un coup maintenant tient le micro vous plaît pas, vous allez vous rendre compte que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'à travers ce qui se dit, ce que vous entendez, vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui vous parle. Et c'est ça qui est important. Parce que les instruments qui lui servent de porte-parole, ne sont pas importants en eux-mêmes. Ce qui est important, c'est le message lui-même qui est apporté. Et vous allez vous apercevoir que Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Et tout d'un coup, vous allez dire, ah ben alors ça c'est extraordinaire. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit quelque chose. Et je continue un petit peu la lecture, on est toujours dans le même chapitre, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, donc c'est le même jour, hein. Il lui a dit, prends le jeune taureau de ton père, hein, et un second taureau de 7 ans. Et renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Et abat le pieu sacré qui est dessus. Et tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste, un sacrifice complet, avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et il fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il avait un peu la trouille, il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta la nuit et non pas le jour. Et quand les gens de la ville se furent levés le matin, voilà qu'ils ont découvert que l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré qui était dessus était abattu, et on avait offert un taureau en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se sont dit à l'un d'autre, mais qui c'est qui a fait ça? Ils se sont informés, ils ont fait des recherches, on a dit, c'est Gédéon, le fils de Joas, c'est lui qui a fait ça. Alors les gens de la ville ont dit à son père, de Gédéon, Joas, ils lui ont dit, fais sortir ton fils, il faut qu'il meure, il a renversé l'autel de Baal, il a abattu le pieu sacré qui était dessus. Alors surprise, Joas, son père, a répondu à ceux qui se présentaient à lui. Il leur a dit, mais est-ce que c'est vous qui devez prendre parti pour défendre le dieu Baal? Est-ce que c'est normal, nécessaire que vous veniez au secours de ce dieu? Il a dit, non, c'est pas normal. Si quelqu'un prend parti pour défendre Baal, eh bien, moi-même, je vais m'en occuper. Il mourra avant que le matin vienne. Est-ce que Baal est un dieu? Si Baal est un dieu, eh bien, qu'il se débrouille et qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et alors, ce jour-là, on a donné un surnom à Gédéon, on l'a appelé Jérubal, en disant que Baal plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et ce Joas, tout d'un coup, avait retrouvé de la jugeote. Mais revenons au début de cet épisode. Vous voyez, quand Dieu a appelé Gédéon n'a pas pu se contenter de se satisfaire, de dire, l'Éternel m'a parlé, j'ai reçu une parole. Ouhou, j'ai reçu une parole. Il n'est pas sorti de l'église, de la réunion, à 22h le mardi soir, en disant, j'ai reçu une parole. Il a reçu qu'il devait faire quelque chose. Parce que recevoir une parole pour recevoir une parole, et juste pouvoir se satisfaire de recevoir une parole, et peut-être même de l'encadrer, de la mettre dans un cadre, c'est un peu stérile. Ce qui est intéressant, c'est que ce que Dieu nous dit nous amène à quelque chose, nous conduit à faire quelque chose, nous conduit à une transformation. Et ici, on pourrait dire que, je vais dire de manière très populaire, que Dieu n'y est pas allé par le dos de la cuillère avec Gédéon. Ça a été clair, le soir même, le jour même, à la fin de ce même jour, il lui a donné des directives qui étaient extrêmement dramatiques. Il lui a demandé un changement radical dans sa vie. Dieu a mis devant Gédéon un changement complet. Il lui a dit, il y a dans ta vie, il y a dans ta maison, il y a dans ta famille, il y a dans votre propriété, il y a une idole, c'est-à-dire quelque chose qui a pris ma place. Et ce qui a pris ma place, c'est l'idole de ce Dieu qu'on adorait dans l'Antiquité, en Palestine, qui s'appelle Baal. C'est un faux Dieu. C'est une idole, c'est un escroc, c'est un faux dieu qui rackette l'adoration des gens pour les détourner de l'adoration du seul Dieu. Alors on lui fait un autel, on lui fait une statue, on fait un monument, il y avait aussi un pieu, un bois sacré, c'est un grand pieu comme ça, devant lequel on offre des sacrifices, des offrandes, etc. Ce sont des choses qui se font encore aujourd'hui dans toutes les sociétés animistes. Et Dieu lui dit, je ne tolère pas cette chose. Ça ne veut pas dire que Dieu l'a tolérée auparavant. Ça veut dire qu'à partir du moment où Dieu se révèle, sa lumière met en évidence ce qui doit être changé. Et c'est bien de vouloir l'aide de Dieu, c'est bien de vouloir la parole de Dieu, c'est bien d'accepter ensuite la lumière qui nous montre ce qui doit être fait. Et ce soir, Dieu va te montrer ce que tu dois changer. Peut-être qu'il y a dans ta maison, dans ton jardin, il y a l'idole de Baal. Oh, évidemment, elle a pris une forme culturelle conforme et cohérente avec le 21e siècle, évidemment. Mais les problèmes des hommes sont toujours les mêmes. Depuis le jardin d'Éden et la chute, ils sont toujours les mêmes. Ils n'ont pas changé. L'homme n'a rien inventé. Et le péché est toujours le même. Et le diable aussi est toujours le même. Et les puissances idolâtres sont toujours les mêmes. Simplement, de temps en temps, elles font comme nous, ils changent de costume. Mais c'est les mêmes. Et lorsque Dieu nous parle et nous appelle, il nous montre clairement ce qui doit être abattu. Ce qui doit être ôté, changé, arraché. Et Dieu lui a pas fait de cadeau à Gédéon. Il lui a dit, tu dois arracher ça de la maison, de ta maison, de la maison de ton père. Il y a un faux Dieu. Et notez que Gédéon était un homme courageux. Parce que la suite, le contexte montre que c'était pas simplement l'idole qu'il y avait dans la maison de son papa. Comme si c'était simplement un truc interne, familial. Mais ce qu'on voit, c'est que c'était l'idole qui était sur leur terrain, sur leur propriété, mais c'était l'idole qui était l'idole de tout le village. Puisque dès que le lendemain, quand on s'est aperçu qu'elle avait été renversée, tout le village en a pris conscience et tout le village était fâché contre eux. On leur avait enlevé leur lieu de culte. Et ils étaient outrés, ils étaient scandalisés. Je pense aussi qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Qu'est-ce que Baal va nous faire maintenant? On a peur d'abandonner les mauvaises choses. Et Gédéon a été très courageux. Et c'est pour ça que là, on voit que Dieu l'avait choisi. Dieu s'est pas trompé qu'il a choisi un homme comme ça, parce qu'il est allé chercher celui chez qui il a vu un potentiel que lui-même, Gédéon, ne connaissait même pas en lui-même. Ça, c'est extraordinaire de voir que Dieu nous connaît mieux chacun que nous ne nous connaissons, nous, chacun d'entre nous. Dieu voit en nous-mêmes, Dieu voit en toi des capacités, des talents, un potentiel que toi tu ignores toi-même, tant que Dieu l'a pas amené à la lumière. Un potentiel de courage, un potentiel de consécration, de force, un potentiel d'action que toi-même tu ignores, parce qu'il est recouvert, parce qu'il est caché à l'ombre du poteau de Baal. Et là, alors, on est quand même un peu étonné de voir que Gédéon, qui avait auparavant beaucoup parlé de sa petitesse, il disait, ma famille, on est très pauvre, on est tout petit, on est moins que rien, je suis tout seul, je suis le plus faible, etc. Mais regardez quand même, moi j'ai été étonné, il dit qu'il a fait ça en se faisant aider par 10 de ses serviteurs. C'est pas tous ses serviteurs, c'est parmi tous ses serviteurs, il en a juste pris 10. Non, mais attendez, c'est quelqu'un qui avait quand même un peu des moyens, alors. Hein? Combien d'entre nous ont 10 employés de maison? Enfin, je veux dire, pourraient en prendre 10 parmi tous les autres, quoi. Hein? Et même si c'est la société à cette époque-là est organisée comme ça, par définition, ben, ça, c'est la preuve que tout le monde n'est pas dans la situation d'avoir des employés de maison, puisque les employés de maison, eux-mêmes n'ont pas des employés de maison. Hein? Donc ça veut dire que ce Gédéon avait de lui-même une image de lui-même qui était extrêmement fausse. Une image détruite. Il n'était même pas conscient de ce qu'il était lui-même, de ses capacités. Il ne pouvait que se dévaloriser parce que il se voyait à travers l'image dévalorisée de tout le peuple qui a abandonné l'Éternel et qui ne voit plus Dieu agir au milieu d'eux. Alors il était tout décontenancé, il en était juste réduit à essayer de tromper un peu les Madianites pour sauver un sac de blé, quoi. C'est tout ce qui lui restait dans sa vie. Mais ça, c'est évidemment, c'est pas très élevé comme objectif, quoi. Hein. Mais quand Dieu met en évidence ce que nous sommes, nous découvrons que nous ne sommes pas les minables, hein. Les minables que la vie nous a projetés. Tu n'es pas cette personne que tu crois voir en toi. Il y a quelque chose d'autre en toi que toi-même tu connais pas. Et si Dieu te montre et met en évidence ce que lui glorieusement il a prévu pour ton épanouissement, alors tu es étonné. Tu dis, mais moi je suis ça? Ah bon? Moi j'ai des qualités comme ça? Ah tiens, ah ben dis donc. Et puis quand Dieu commence à te les faire mettre en action, mais ton entourage aussi dit, mais d'où lui viennent ces choses? Ben, elles lui viennent de Dieu, depuis toujours. Seulement, il fallait pouvoir les mettre en action avec la grâce du Seigneur. Gédéon a été courageux. Et personne n'aura jamais une véritable satisfaction de vie, à moins de régler complètement sa relation avec Dieu. Je vous dis franchement, chercher, on parle beaucoup aujourd'hui dans le monde, dans notre société, c'est un thème quasi récurrent, l'épanouissement, la réalisation de soi, etc. Et ce sont des thèmes très intéressants, il y a des choses formidables dans tout ça. Mais tant qu'on n'a pas réalisé que la réalisation de soi, l'accomplissement de notre identité, passe forcément d'abord par l'établissement d'une vraie relation avec Dieu, alors on peut courir derrière son identité pendant toute sa vie. Vous pouvez toute votre vie courir derrière votre carte d'identité et ne jamais arriver à l'attraper. À moins que vous ne soyez dans une relation juste avec Dieu. Pourquoi ? Parce que tout simplement, parce que Dieu est le créateur et que nous sommes des créatures. Et à moins de respecter, de rentrer dans le dessein que Dieu a pour notre vie, nous ne pourrons pas réaliser ce que nous sommes. Nous ne pourrons pas aboutir réellement. Gédéon est rentré avec courage. Il a fait un sacrifice. Bien sûr, ici, c'est un sacrifice avec des bêtes, avec des animaux. Il a offert un sacrifice. Mais c'est plus que ça. Il a sacrifié son confort, sa sécurité. Il a sacrifié cette zone de confort dans laquelle il était quand même relativement installé. Il savait pas ce qui allait arriver demain. Il a fait la nuit et remarquez, il a bien fait. On n'est pas toujours obligé de provoquer tout le monde. Il a bien fait, mais il l'a fait. Mais il se devait réellement se demander qu'est-ce qui va se passer demain. Et moi je trouve, vous voyez, l'autre jour on avait parlé de Samson, et pour comparer Samson et Gédéon, par exemple, on a vu que Samson est un homme qui n'a jamais réussi et qui n'a même jamais cherché à créer des vraies relations avec ses semblables. Samson est resté toute sa vie quelqu'un de solitaire, quelqu'un qui a agi tout seul avec ses motivations à lui, personnelles. Mais dès le début, Gédéon a cherché à travailler avec des gens. Ici, tout de suite, la première chose que Dieu a faite, il n'a pas dit « c'est mon truc, c'est mon œuvre, ah, c'est mon ministère ». Et dégagez les gars, vous savez pas ce que c'est moi qui suis investi. Non, il a cherché des gens pour l'aider. Il a réussi à communiquer cette vision qu'il avait reçue de l'ange. Les gars qui l'ont fait avec lui couraient autant de risques que lui. Si après tout le village voulait tuer Gédéon, il pouvait aussi vouloir tuer tous ceux qui avaient été ses complices. Ils ont pris aussi des risques avec eux-mêmes. Bien sûr, on peut dire, ils ont obéi parce qu'il fallait obéir. Ouais, mais quand même, ils auraient pu aussi dire, mais attends, ça c'est pas dans nos prérogatives de démolir les idoles. Mais ils l'ont fait parce que Gédéon leur a communiqué une vision. Et dès le début, Gédéon a eu cette capacité de rallier du monde à la cause de Dieu. Et moi, je trouve extraordinaire la réaction de son papa. Le lendemain matin, vous voyez, tout le village est venu et ils ont cogné à la porte de la porte de la maison familiale et ils ont dit à Joas, ils ont dit, fais sortir ton fils, nous allons le faire mourir, il est un sacrilège, qu'est-ce qu'il a, ça va à la tête chez lui ou comment, il a abattu notre idole, tous les jours on vient faire des sacrifices, demande, allez, fais le sortir, il va mourir. Et Joas, qui jusque-là n'a joué aucun rôle, qui cautionnait bien tout ce système, puisque tout ça c'est dans la cour de sa maison. Jusqu'à là, il était bien d'accord avec tout ça. Et le voilà qui, tout d'un coup, s'est réveillé grâce au comportement de son fils. Quand vous avez un comportement réveillé, vous réveillez ceux qui sont autour de vous. Déjà le matin, quand vous vous réveillez, c'est difficile de sortir du lit sans réveiller votre femme. Dès qu'on est, ou le contraire, parce que c'est bien des femmes qui se lèvent. Moi, chez moi, c'est plutôt ma femme qui se lève d'abord. Oui, non, mais je lui laisse le privilège de faire chauffer l'eau, tout ça. Mais c'est difficile de se lever et d'être réveillé sans empêcher de dormir ceux qui dorment. Le papa de Gédéon a été réveillé parce que Gédéon s'est réveillé. Quand tu te réveilles dans ta vie, quand tu laisses Dieu intervenir dans ta vie, quand tu commences à mettre de côté ce qui est à mettre de côté, quand tu commences à déboulonner les statues, les idoles, les trucs qui sont contraires à Dieu, quand tu débarrasses la cour de ta maison, et puis aussi le salon et tout ça, et ce qui se passe dans ta tête, quand tu te mets au clair avec Dieu, les gens qui sont autour de toi sont bouleversés. Tout d'un coup, même ta propre famille dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment il fait? Mais il n'était pas comme ça avant. Forcément, ça se voit. Et les gens sont touchés. Et Joas, tout d'un coup, s'est réveillé. Quel âge il avait, ce Joas, on ne sait pas. Mais en fait, ça fait toute une vie qu'il est en train de cautionner l'idolâtrie. Il est en train de cautionner toutes ces choses-là. Il ne s'est jamais remis en question. Et tout d'un coup, là, dans une nuit, ça l'a percuté complètement. Il a dit, mais pourquoi mon fils a fait ça? Mon fils, il a été dans le jardin, il a mis par terre l'idole pour faire un autel à l'Éternel. Mais au fond, il a raison. Mais au fond, c'est lui qui a raison. Pourquoi on a toléré des choses pareilles? Est-ce que Baal nous a rendu déjà service? Jamais. C'est l'Éternel qui nous a fait sortir de l'esclavage. Pourquoi est-ce qu'on a été assez bête pour servir un Dieu mort? Mais il a raison. Mais heureusement qu'il s'est réveillé. Il faut qu'on se réveille aussi. Et quand les autres sont venus réclamer son fils, Joas a dit, attendez, vous voulez défendre qui? Vous voulez défendre Baal? Vous confiez dans un Dieu qui ne peut pas défendre lui-même sa statue? Attendez, c'est grave ça. Votre Dieu a besoin de vous, de vos mains, pour défendre son image? Eh ben dis donc, il n'est pas costaud, hein? Et c'était des paroles pleines de sagesse. Vous savez, quand quelqu'un est réveillé par l'Esprit de Dieu, il ne faut pas longtemps pour devenir sage, hein? Et il leur a dit, écoutez, si quelqu'un, moi, je m'y oppose. Ici, je suis chez moi. Et chez moi, on fait ce qui se fait chez moi. Et je ne vous permets pas, chez moi, dans ma maison, je ne vous permets pas de prendre parti pour Baal. Vous allez voir si vous essayez de faire quelque chose, comment on va faire. Tout d'un coup, on découvre un gars qui est, hein? Dis donc, il a du tempérament, ce Joas. Pourquoi il n'en avait pas avant? Pourquoi avant il était mou? Pourquoi il a tout laissé tomber? Parce qu'il était endormi. Comme vous ne l'êtes pas ce soir. Alléluia. Chers amis, vous avez eu peur, hein? Nous pouvons vivre réveillés. Nous pouvons vivre réveillés. On parle souvent du réveil dans l'Église. Et c'est bien toutes les périodes de réveil. Mais mieux encore que le réveil, c'est que les périodes de réveil, c'est d'être un peuple réveillé. Et un peuple de gens qui restent toujours réveillés. Et qui sont changés, transformés. Et finalement, ce que Joas a proposé était très juste. Il a dit, si Baal est un vrai Dieu, il va se défendre lui-même. Tout le monde a attendu. Peut-être que dans le village, il guettait quand Gédéon passait. Il se disait, tu vas voir, il va attraper une maladie, hein. Tu vas voir, je serais pas étonné que la semaine prochaine, il ait au moins la scarlatine. Mais non, il a rien attrapé du tout. Il allait de mieux en mieux. Et on s'est bien aperçu qu'il fallait revenir à l'Éternel. Gédéon a, par la suite, je passe très vite, mais Gédéon a pu être ce vaillant héros que Dieu lui avait révélé en lui-même, qu'il ignorait et qu'il était. Gédéon a levé une armée pour aller combattre Madian. Et quand il a eu levé cette armée, à un moment, ils étaient 32 000. Bon, c'est 32 000, évidemment, c'est les chiffres, hein, c'est toujours relatif. Hein, si on est 32 000... Bon, ça dépend en face de quoi. Mais là, par rapport à Madian, c'était pas beaucoup. Mais Dieu l'a surpris encore et lui a dit non, ça va pas du tout votre nombre. Hein. Gédéon a dû se dire oui, c'est vrai, on n'est pas beaucoup. Dieu lui a dit vous êtes beaucoup trop. Vous êtes beaucoup trop. Et votre problème, c'est que parce que vous êtes 32 000, si je vous fais remporter la victoire, de toute façon, c'est moi, l'Éternel, qui vous fait remporter la victoire, mais après, vous allez crier cocorico, hein, Et vous allez dire, on a été les plus forts, on a été malins, on a été courageux, on a été valeureux. Et au lieu de me donner la gloire, vous allez me la piquer. Donc ça ne marche pas. Il a dit à Gédéon, déjà, on va faire un tri. Hein. Tu vas déjà proposer à tous ceux qui ont un peu les chocottes, qui rentrent chez eux. Sur 32 000, quelle est la proportion des peureux dans le peuple de Dieu? Normalement, si on faisait des stats. En tout cas, là, ce jour-là, c'était 70%. Hein. Sur 32 000, 22 000 sont partis. Bon, Gédéon devait regarder ceux qui restent, il devait dire, là, 10 000, c'est pas beaucoup. Hein. Dieu a dit, c'est encore beaucoup trop. On va prendre 3% de ce qui reste. Et finalement, il en a gardé 300. Alors évidemment, quand on part à 300 pour aller combattre contre une armée de plusieurs centaines de milliers de personnes, alors là, on sait, hein, personne ne discute, on sait que si jamais ça marche, c'est grâce à Dieu. Hein. Là, on ne discute pas, là. Là, il n'y aura personne pour... Hein. Là, on va être d'accord, hein, ok. Ils sont partis. Et Dieu lui a donné à Gédéon des armes d'intelligence. Bien sûr, à 300, ils n'allaient pas se lancer comme ça au milieu. Hein. Non, ils ont encerclé. Ils se sont postés tout autour, la nuit, tout autour du camp de Madian. Et Gédéon avait donné à chacun une cruche dans laquelle on avait fixé un flambeau. Et ce flambeau était allumé, bien sûr. Pourquoi dans une cruche? Ben, pour que la cruche cache la lumière. Et de l'autre main, ils avaient une trompette. Et ils se sont mis comme ça, trois groupes, 100, 100, 100, autour du camp de Madian. Et au signal, alors ils ont cassé les cruches, et tout d'un coup, les lumières, les flambeaux étaient là, et puis ils avaient des trompettes, ils ont sonné, et ces 300 gaillards se sont mis à hurler, « L'épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Et ils criaient ça, et ils bougeaient pas. Ils ont rien fait. Mais les autres, c'était dans la nuit. Les autres qui étaient là et qui ont vu 300 trompettes, normalement, dans chaque corps d'armée, il y a une trompette. Donc pour eux, 300 trompettes, c'est 300 corps d'armée, vous voyez. Ils n'ont pas pensé qu'on avait envoyé que les trompettes. Et oui, dans la nuit. Alors quand ils ont entendu 300 trompettes, ils ont dit, ça c'est grave. Et ils se sont mis à courir, et comme il manquait un petit peu, il y avait une panne d'électricité, ils se sont mis à s'entretuer les uns les autres, etc., et puis après à s'enfuir, etc. Et Gédéon a remporté sur Madian une victoire extraordinaire, avec des trompettes et des flambeaux. Il y a toute une allégorie dans tout ça. Vous voyez, la trompette, c'est le symbole de la proclamation. C'est quand on commence à proclamer les choses de Dieu, c'est quand on commence, si on les proclame, c'est qu'on les croit, hein. C'est quand on commence dans nos vies à sonner la trompette de la vérité. Quand on commence à affirmer, quand on commence à dire ce qu'on est, ce qu'on croit, ne serait-ce que pour son salut, mais aussi pour l'œuvre de Dieu, pour la foi, pour ce qui se passe dans nos vies, alors Dieu commence à agir aussi. Et tout ça se fait avec le flambeau, avec la lumière, hein. Avec la vérité. La vérité et la proclamation. Ça va? Vous mettez ça dans votre vie. La vérité et vous la proclamez. La lumière et la trompette. Hein. Et vous allez voir que Dieu va commencer à agir aussi. Pourquoi est-ce qu'il fallait briser les cruches? Les cruches, c'est le vase d'argile. Dans la Bible, c'est souvent une image de notre propre nature. Mais notre nature... si j'ose dire, notre nature naturelle. Hein. Ce qu'on est par nous-mêmes, dans notre faiblesse. Et ça, il faut que ce soit brisé. Ça, il faut que ce soit cassé pour que ne reste que ce que Dieu a mis en nous, que ce que Dieu a mis de lumière et de vérité dans notre vie. Chers amis, comme la Bible elle-même nous dit, nous n'avons pas d'armes par nous-mêmes. Ce que nous sommes nous vient de Dieu. Ce que nous sommes, c'est ce que Dieu a fait de nous. Ce que nous avons de bon, c'est nous ne l'avons ni fabriqué, ni inventé, ni produit, ni mérité. C'est seulement ce que Dieu a déposé en nous. Même l'apôtre Paul disait, qu'est-ce que nous avons que nous n'aurions pas reçu? Nous l'avons reçu, mais parce que nous l'avons reçu, nous sommes capables de vivre avec. Si dans notre vie, chacun, nous admettons de démolir les idoles, de mettre par terre hein, le bois sacré de Baal. Si nous mettons vraiment, construisons dans notre cœur vraiment un autel pour l'Éternel, où nous offrons dans l'autel de notre cœur le bon parfum qui revient à Dieu, l'holocauste d'une vie qui lui est sanctifiée. Si nous acceptons que Dieu brise ce qui de notre nature est n'est pas propice à son service, qui ne correspond pas à son identité et à ce que Dieu veut faire de nous. Si nous laissons la lumière se développer en nous et si nous la proclamons de toute notre force, mais alors nos ennemis ne peuvent rien faire. 300 mettent en déroute une armée de dizaines de milliers de personnes. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous. Amen. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Tu n'es pas obligé de continuer de battre du froment au pressoir. Tu n'es pas obligé de rester dans une vie où tout est sens dessus-dessous. Tu n'es pas obligé simplement d'essayer de sauver des miettes. Tu n'es pas obligé de continuer dans une vie où on se demande où Dieu est. Mais tu peux retrouver cette puissance, cette vérité. Dieu te parle. Dieu parle, c'est pas simplement l'histoire de Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Ah ouais, ça c'est une belle histoire, ouais. Non, c'est pas une histoire d'il y a des milliers d'années, c'est l'histoire d'aujourd'hui des enfants de Dieu qui marchent avec le Seigneur. C'est pour toi. J'aimerais créer, communiquer, laisser le Saint-Esprit communiquer à quelques-uns cette certitude que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Ta vie peut changer. C'est possible. Ta vie peut changer. C'est pas un conte. C'est pas une théorie. C'est pas une doctrine. C'est pas un slogan évangélique. C'est la nature même de Dieu. Dieu veut te changer. Tu peux changer. Tu n'es pas obligé de rester ce que tu es. Dieu, si Dieu te dit ce soir, vaillant héros, tu n'es pas obligé de te retourner pour te demander à qui il parle. Mais oui, c'est toi. Mais oui, c'est toi. Un héros de Dieu. Une héroïne de Dieu dans la main de Dieu. Quelqu'un qui accepte. Quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Laissons le Seigneur. Hein. Laissons le Seigneur nous convaincre. Hein. Nous convaincre de renverser le pieu sacré de Baal. Laissons le Seigneur nous convaincre hein, de démolir les idoles. Elles ne t'ont fait du bien, elles ne t'ont jamais fait du bien. Tu sais très bien, Dieu, le Saint-Esprit parle à quelques-uns ce soir. Et vous savez très bien ce qui est l'équivalent de cette idole dans votre cœur. Bien sûr, je sais bien que ce soir, il y a personne ici, sans doute, qui n'a jamais de sa vie prononcé une parole d'adoration au Dieu Baal, certainement. Mais vous savez très bien, le Saint-Esprit vous montre ce qui est dans votre vie, la concrétisation de cette idole. Ce soir, Dieu te dit, démolis ça ce soir. Tu dis, oui, mais je crains ma famille. Démolis quand même. Mais je crains mes proches, mais crains Dieu plutôt. Crains Dieu plutôt. Oui, je n'ai pas la force, mais c'est Dieu qui te la donne. Oui, mais je ne saurais pas faire, mais c'est Dieu qui sait ce que tu es capable de faire ou pas.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.